Je vais juste terminer, clôturer sur la famille encore 5-10 minutes. Et après, on passera au deuxième diapo sur le corps de la femme. Alors, du coup, je vous propose quelque chose, un défi pour aujourd'hui que je pense qui est à la hauteur de tout le monde. Et peut-être que vous le faites déjà. Moi, c'est quelque chose que j'ai instauré récemment dans ma famille et qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Suspense. En fait, je constate aujourd'hui, on parle de la famille, dans ce que j'entends, dans ce que je vois, il y a quand même beaucoup la notion de burn-out parental, ça vous parle ? De charge mentale. Et en fait, je pense qu'il y a une course à l'activisme qui n'est pas de Dieu, voilà, pour dire les choses simplement. Et je pense, en fait, dans la Bible, on voit Jésus, bon, il n'avait pas 5 enfants, c'est vrai, c'est ce que je lui ai dit un coup. Mais, en fait, Jésus prenait du temps, il prenait le temps. Et je pense que, alors tous, nous sommes très pris, on a plein de trucs à faire, c'est biblique. C'est dans la loi, c'est tellement important que c'est dans la loi. Normalement, vous l'avez, là. Le Shabbat. Et qu'est-ce qui nous parle du Shabbat ? Alors, moi, j'étais là, oui, évidemment, le dimanche, voilà, on est plus cool. Mais en fait, on ne faisait pas du tout le Shabbat. Le Shabbat, si on relit un petit peu dans la Bible, voilà, ça, sans prendre le truc religieusement, mais s'en inspirer, c'est ça que je veux vous dire. Donc c'est une fête juive, le repos, c'était du vendredi soir au samedi soir, et en fait, tu travailles pas, tu prends du temps pour toi, pour ta famille. Et alors, quand vous regardez chez les Juifs, voilà, c'était même poussé à l'extrême. Jésus était pas d'accord avec ça. Il fallait même pas faire un miracle le jour du Shabbat. C'était considéré comme un travail. Et est-ce que je peux guérir un aveugle? Vous voyez ça? Voilà. Jésus n'était pas d'accord avec ça. En fait, le Shabbat a été créé pour l'homme. Pour la famille. Voilà. Et non l'inverse. Et en fait, je me suis fait cette réflexion. Je me suis dit, je devrais un peu plus instituer la notion de Shabbat dans ma famille. Moi, c'était un peu comme ça, à l'arrache. Parce que le dimanche, on n'est pas en repos. Je ne sais pas si vous êtes en repos le dimanche. Moi, il y a la louange, le service à l'église. Après, il y a toujours des squatteurs chez nous. Donc, il y a plein de gens qui bouffent à la baraque et qui cuisinent. C'est bibiche. Tous les célibataires. Mais oui, c'est ça, je les aime. D'un amour fraternel. Et donc en fait, moi, j'aime énormément le dimanche, mais venez pas me dire que c'est une journée reposante. Donc, là, je me suis dit, faut que je réaligne un truc, parce que le Shabbat, il est dans la loi de Dieu au même titre que toutes les autres lois. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire. Donc, le vendredi soir, nous avons instauré le Shabbat. Donc, j'allume les bougies. Parce que dans la tradition juive, il faut allumer des bougies. Il y a une signification pour ça. Nous, ça rajoute du fun. Les gamins les soufflent. Je les rallume. Wouh ! Arrête ! Sinon, bref. Et donc, voilà, on allume les bougies. C'est le vendredi soir et vous savez ce qu'on fait. On fait une grosse, méga, giga soirée crêpe. Mais c'est génial ! Moi, j'ai appris à un enfant à les faire. Fantastique. Ça, c'est une de mes stratégies. C'est peut-être pour ça que j'ai fait 5 enfants. J'en ferai peut-être 7, je ne sais pas. Je veux apprendre à chaque enfant à cuisiner un plat de A à Z. Comme ça, des fois, le soir, et ça commence, Zach et Joy, 2 plats. Les 3 autres, ils sont trop petits, ça viendra. Zach, il sait faire les pâtes carbonara. Donc, il y a des fois, le soir, machin, je fais, Zach, fais-moi des pâtes carbo, s'il te plaît. Et vous voyez, hop, 11 ans, il prend les casseroles, tac, bouillon, huile d'olive, il fait bien, attention, la vraie recette. Et voilà, responsabilisez vos enfants, faites-les participer à la vie de famille. Moi, je crois que cette histoire aussi de charge mentale, Et c'est qui gère la baraque? C'est nous. Donc tout le monde au boulot. Moi, un coup, j'en avais ras-le-bol, comme ça arrive souvent malheureusement. J'ai aligné en randonnion les quatre enfants, parce que l'autre c'était un bébé, la pauvre. Et j'ai dit, maintenant ça suffit. J'en ai ras-le-bol. C'est pas à moi de tout faire dans cette maison. Et j'en ai marre de répéter. Et vous savez, Dieu me parle. Ah oui, parce que je vais vous dire un truc. Dieu, il utilise vos situations familiales pour vous parler. Moi, j'en ai marre de répéter à mes enfants de faire des choses. Va arranger ta chambre. Va arranger ta chambre. À table, à table. Vous rigolez, hein, mais cette cloche, c'est pour appeler à table chez moi. Parce que j'en ai marre de crier à table. Je fais ça. Ils ont compris, ils descendent plus. Faut peut-être que je m'améliore en cuisine. Bref, qu'est-ce que je disais? Ben, je sais plus du coup. Je vous parlais de quoi? Ah ouais, voilà. J'ai dit, en fait, c'est hors de question que ça sera moi qui fasse tout dans cette maison. C'est hors de question. On est une famille, on est une communauté. Et déjà, moi, je ne me sens pas respectée. Voilà. Quand je vous appelle, que vous descendez pas pour manger, je vous ai préparé un repas, ça m'a pris du temps, de l'énergie, moi je suis contente de vous servir, la moindre des respects, c'est de descendre quand je vous appelle. Donc je dois régulièrement raligner les choses, comme ça, parce qu'ils oublient, hein, évidemment. Donc on raligne, c'est de l'éducation, on y va, voilà. Ce qui me rassure, c'est que quand ils vont à l'extérieur, ça veut dire que vous faites du bon boulot. C'est pour vous encourager. En général, quand ils vont à l'extérieur, les gens me font le retour qu'ils sont bien élevés. Et moi, je suis là. Oh, alléluia! Vous n'avez pas idée des efforts que ça me coûte. Souvent, c'est comme ça. Hein, les enfants dans le foyer, ils se lâchent. Mais si vous avez posé les bonnes bases, quand ils sont à l'extérieur, ils sont bien. Je vais les envoyer plus souvent chez les autres, ça m'encourage. Et en fait, voyez, les enfants, ben, ils ont des tâches à faire chez moi. Ok, y en a un, il met la table, l'autre, il débarrasse, l'autre, il fait la vaisselle. Moi, je supervise. Ça donne envie, hein? Et puis, les autres qui arrivent derrière, ils pensent que c'est un jeu. Alors, c'est marrant de faire la vaisselle. Mais oui, c'est génial! Surtout, continue de jouer! Non, mais, alors oui, c'est vrai que j'ai de l'eau partout. Mais écoutez, on s'en fiche. C'est pas grave. Ah oui, il frotte pas très bien. C'est pas grave. Il faut lâcher aussi, hein, les filles. C'est toujours les filles. Oui, le lave-vaisselle n'est pas rempli comme toi tu veux. Oh, mais arrêtez avec cette obsession du lave-vaisselle. Hein. On s'en contrefiche. L'objectif, c'est quoi? C'est que la vaisselle soit lavée. Ok, l'espace n'est pas optimisé. Mais c'est pas grave. Ferme la porte, mets-le en route, lavage. Et puis on passe à autre chose. Enfin, vous voyez, des fois, la charge mentale. Moi-même, des fois, j'écoute mes copines, je leur dis, mais arrête. Enfin, tu me charges moi-même. Un coup, je discutais, vous savez, la soirée crêpe Shabbat. On rigole, hein. Et je dis à une de mes amies que je fais une soirée crêpe. Elle me dit, et puis tu fais quoi pour le repas? La meuf, elle n'a pas compris le concept. Je dis, en fait, c'est ça le repas, c'est des crêpes. Elle me dit, mais c'est un dessert, la crêpe. Oh, ça, c'est un débat, je vais pas rentrer là-dedans. C'est les deux, je suis d'accord avec toi. J'ai dit, en fait, s'ils veulent du salé, ils prennent du gruyère. S'ils veulent sucré, ils prennent le Nutella. Et j'ai des enfants bizarres qui font des mélanges bizarres. Mais je m'en fiche, ils rigolent, ils s'amusent, c'est Shabbat. On est là pour passer un bon moment en famille. Il en met partout du Nutella. Mais c'est pas grave. Laissez les enfants être des enfants. Vous les mettez au Karcher après à la douche. C'est pas grave. Non, mais si vous saviez, moi, les choses que j'ai lâchées pour avoir 5 gosses, mais sinon, j'en aurais pas fait 5. Ou alors, je serais dans un pas très bon état. En fait, tout ça pour vous dire que, en fait, mon amie, justement, elle, dans sa conception, un repas, c'est entrée, plat, dessert. Tous les jours. Et alors peut-être que vous le faites et que vous vous éclatez, génial. Mais moi, je m'imaginais entrée, plat, dessert tous les jours. Oh, mais quelle tâche! C'est trop pour moi. C'est trop pour moi, donc moi je le fais pas. Il y a des repas, c'est entrée, plat dessert. Et puis il y a des fois, non, mon mari, même lui, dans sa famille, des fois, c'était céréales lait le soir. Mais pourquoi pas ? Moi, j'ai jamais fait ça. La première fois, il a dit, allez les gosses, on fait tous céréales Nesquik. J'étais là, attendez, on peut me demander mon avis ? Et ils étaient là, ouais, trop génial ! Ah ben, j'avais prévu un bœuf bourguignon, mais allons. En fait, voyez, c'est ça que je veux vous expliquer, c'est que dans la famille, dans le quotidien, il peut y avoir de la légèreté, il peut y avoir du changement d'habitude, et les enfants, ils sont en apprentissage. Le but, c'est que ça soit fun, qu'on prenne du bon temps ensemble. Si on se crie tous les jours dessus, c'est terrible pour tout le monde, pour les enfants, pour moi, pour mon mari. Et on peut injecter du fun, et le Shabbat, c'est du fun. Donc moi, c'est soirée crêpe, et puis comme c'est Shabbat, je veux qu'on ait un bon moment ensemble, et du coup, je m'amuse. Alors, soit on regarde un épisode de The Chosen, on aime bien faire ça devant Shabbat, pendant Shabbat, soit par exemple, moi je leur dis, ok, eh ben, on va tous se dire ce qu'on apprécie chez l'autre. Donc, toi, qu'est-ce que tu apprécies chez ta sœur ? Mais c'est un excellent exercice. Est-ce qu'on peut se complimenter dans une famille ? Parce qu'on se clash toute la journée. Hein, on aime bien se faire des blagues. Deux frères, une sœur. On t'a trouvé dans les poubelles ! Ok, merci. Mais on peut peut-être aussi se dire, ben, j'ai apprécié aujourd'hui quand tu as fait ça pour moi, etc. Et ça, ça s'apprend tout petit. Et j'espère que ça va rester en grandissant. Et puis du coup, le lendemain, avec Ben, on essaye, sauf quand il y a assez BM Campus, de faire une sortie famille. Voilà, voyez. Voyez, quand on met Dieu dans tout, il n'y a pas cette histoire de « Tiens, j'ai un enfant qui me demande de faire un jeu de société. Non, je suis en train de prier, tu passes après Dieu. » Non, tu sais que tu peux poser ta Bible et faire un jeu de société avec ton gamin, et tu réjouis Jésus, parce que tu investis dans ton gamin. Il se sent aimé. Moi, c'est les jeux de société, mais vous, c'est peut-être autre chose. Vous connaissez mieux vos enfants. La notion de Shabbat, ça nous permet de vraiment ralentir le temps, d'accord ? Un temps de pause dans la semaine. On prend du temps pour nous, qu'est-ce qui nous fait plaisir ? Nous, on kiffe manger des crêpes. Réfléchissez-vous, qu'est-ce que vous aimez faire ? Et faites-le à un moment de la semaine qui est propice pour le couple, pour les enfants. Injectez des temps de qualité ensemble. Alors, on parlait tout à l'heure la peur de plus faire d'enfants parce que le monde va mal, etc. J'aime beaucoup ce passage, Proverbe 14, 28. Écoutez, la gloire d'un roi, c'est la multitude du peuple. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. C'est ce qui se passe en France. Hein. C'est pour ça que les femmes, vous allez recevoir celles qui n'ont pas d'enfants. Macron nous a prévenu, on va recevoir un courrier de sensibilisation à l'infertilité. Je ne pense pas que c'est comme ça que nous allons faire monter le niveau des naissances en France. La peur, elle n'est pas de Dieu. Les enfants sont une récompense. En sortant de la guerre mondiale, il y a eu le baby boom. Ça a tout relancé. Quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si vous arrêtez de faire des enfants, en fait, il y a pas d'espoir. Dieu, il est pour les familles, il est pour la vie, et Dieu va pourvoir. Dieu, il va pourvoir. Vous aviez un doute ? Continuez de faire des enfants. Dieu, il va pourvoir. Quand il n'y a plus d'enfants dans une nation, c'est la perte de cette nation. Et c'est parce que nous voulons pour la France. Seigneur Jésus, on veut plein de bébés. Amen, amen. Dieu est un Dieu de vie, d'abondance et de multiplication. Je ne suis pas pour l'euthanasie. Je suis pour les soins palliatifs. Vous comprenez la différence ? Nous pouvons, et nous sommes capables de faire ça en France, soulager la souffrance et accompagner quelqu'un pour qu'il meure dans de bonnes conditions et paisiblement. Ça coûte très cher, les soins palliatifs. Mettons l'argent dans les soins palliatifs. L'euthanasie coûte beaucoup moins cher. Vous trouvez pas que ça c'est bizarre? Il n'y a jamais eu autant de naissances, enfin un taux aussi bas de naissances depuis l'après-guerre en France. Pourtant, il n'y a jamais eu autant d'avortements. Plus de 250 000 en 2024. C'est beaucoup de bébés qui ne sont pas nés en France. Ah oui, oui. Je ne connais pas les chiffres mondiaux. Et vous savez, alors, il ne s'agit pas de porter un jugement par rapport à l'avortement. Il s'agit de nous remettre aussi en question. J'ai entendu tellement de femmes dire « Si mon conjoint m'avait soutenue, déjà, je n'aurais pas avorté. Les hommes, on a besoin de vous. Les hommes, on a besoin de vous pour garder nos bébés, pour garder vos bébés. » Parce qu'on l'a fait à deux. On a besoin d'être soutenu. Que l'enfant soit désiré ou non, la femme, elle est vulnérable à ce moment-là. Moi, j'ai été vulnérable pendant mes grossesses. J'ai été vulnérable pendant mes postpartum. Hormonalement, c'est quelque chose. Nous avons besoin de vous, les hommes. On a besoin de pouvoir s'appuyer sur vous, vous faire confiance, savoir que vous allez tenir. On a besoin de vous, les hommes. Les pertes de grossesse, qu'elles soient volontaires ou non, c'est une souffrance. Simone Veil disait, et je suis d'accord avec elle, par rapport à ça, une femme ne va jamais se faire avorter de gaieté de cœur. Je n'ai jamais vu ça. Il y a de la souffrance dans l'avortement. Il y a la perte d'un enfant. Et Jésus, vous savez, il n'est pas aveugle par rapport à ça. Jésus sait, Jésus voit les bébés que nous avons perdus. Et encore aujourd'hui, je disais, nous pouvons honorer la vie que nous avons portée, même si elle a été trop courte. Nous pouvons faire ça. Nous pouvons donner un prénom à l'enfant que nous avons perdu. Nous pouvons sortir du silence. Vous savez, à chaque fois que moi je suis tombée enceinte, je le dis tout de suite à tout le monde. Et un jour, tiens, c'est marrant, c'est la même amie avec les crêpes. Enfin bref, il y a peut-être un lien. En fait, cette amie me dit, mais pourquoi tu dis déjà que tu es enceinte? J'étais enceinte d'un mois et demi. Elle me dit, pourquoi tu dis déjà que tu es enceinte? Enfin, il y a quand même beaucoup de femmes qui font des fausses couches, c'est une sur trois. Et je lui dis, j'ai pas compris la question. Et elle me dit, bah, je sais pas, voilà, après c'est un peu pénible d'aller revoir les gens, leur dire que finalement t'as perdu le bébé. Et j'ai dit, bah, écoute, en fait moi je le dis parce que comme ça vous partagez ma joie. Et si un jour je perds quelque chose, vous partagerez ma peine. C'est terrible d'être mise sous silence. C'est terrible. Quand on a fait une fausse couche, quand on a eu une perte de grossesse, qu'elle soit volontaire ou non, quand on est mise sous silence, on se sent très seul. C'est terrible. On a besoin d'en parler. On a besoin d'avoir de l'écoute. On a besoin de faire le deuil. Nous avons besoin de faire le deuil d'une perte de grossesse. On a besoin d'être consolé. Nos utérus, ils sont très contestés par le diable. Parce que ce sont des lieux de vie, mesdames. Donc on va en parler tout à l'heure avec le corps de la femme. C'est un petit organe, hein, 5 sur 8 centimètres. Tout petit, très puissant. Peut-être des petites astuces pour vivre ensemble. La famille, c'est du vivre ensemble. La famille, c'est du vivre ensemble. L'église, c'est du vivre ensemble. Alors, des choses que nous, on fait chez nous, que je peux peut-être vous conseiller. Alors, nous, on mange 3 fois par jour ensemble. J'ai cette grâce, mon mari travaille à côté, il revient le midi, l'école est pas loin, voilà, matin, midi, soir, on est ensemble. Autant que possible, un repas en famille ensemble tous les jours. D'accord ? Autant que possible. Vous mangez à table, sans écran. C'est à votre portée. Coupez-moi ça. Coupez la télé. Coupez les téléphones. Je pose mon téléphone parce que mes enfants, ils me regardent. Hein. Le jour où ils auront un téléphone portable, qu'est-ce que je vais leur dire? Coupe ton téléphone. J'aurai pas d'autorité si moi je le fais pas. Ok, à table, on coupe, puis on se pose des questions, on se regarde dans les yeux. T'as fait quoi à l'école aujourd'hui? Comment elle va ta copine Clotilde? Intéressez-vous à la vie de vos enfants. Parlez avec votre conjoint. À table, c'est un temps de famille, c'est un temps social. Le Shabbat, j'en ai parlé. Shabbat. Prévoir un temps couple. Je ne sais pas comment vous pouvez organiser ça. Alors moi, je vais être très honnête avec vous. Alors tout ce que je vous le partage, c'est en accord avec mon mari. Nous, avec notre conjoncture, la petite enfance, etc., on ne peut pas toujours se retrouver un resto une fois par semaine. Si vous, vous pouvez, par exemple, mais faites-le. Mettez-vous dans l'agenda. Bah, tous les 15 jours, on fait ça. Une fois par semaine, on fait ça. Moi, autant que possible avec mon mari, on essaie d'avoir des temps ensemble pour connecter émotionnellement. Parce que nous, les filles, pour se connecter sexuellement, on a besoin de se connecter émotionnellement. Les garçons, vous pouvez faire l'inverse sans problème. Voilà, alléluia. Mais une fois qu'on sait ça, on comprend un peu aussi comment fonctionne une femme. Alors, je vais vous donner, par exemple, mon mari et moi. Et il y a des fois, les travaux, lui, il travaille 8h, 19h tous les jours, 5 enfants, heureusement que je suis mère au foyer, l'église, les activités, les potes, le tiroir du couple, il est où, là? Alors, c'est un truc tout bête, hein, mais déjà, par exemple, on se lève ensemble, on se couche ensemble. Si c'est possible, je vous donne des petites astuces. Bah, parce que quand on se couche ensemble, bah, y a le petit bisou du soir, je t'aime, voilà, des petits mots doux qui font que bah, un couple continue d'avoir une flamme. Si vous vous couchez jamais à la même heure, vous vous levez jamais à la même heure, vous voyez pas de la journée, vous êtes des colocs. On veut éviter ça. Combien de divorces parce que le conjoint dit il n'y a plus rien. On est des colocs en fait. Alors, je veux pas que mon mari devienne mon coloc. Vous voyez, il y a un truc, nous, ça s'est instauré dès le début du mariage. Je sais pas pourquoi, mais par exemple, avec mon mari, on se douche ensemble. C'est autorisé dans la Bible, je pense. J'en sais rien. C'est pas écrit dessus. C'est juste pour vous dire. En fait, il y en a un qui part se doucher, bah, l'autre, il capte et puis il suit derrière. Écoutez, vous savez, ça dure 5 minutes. C'est la douche. Mais en fait, c'est notre moment à nous. Parce qu'on ferme à clé, et puis on se lave et on se frotte le dos, et en fait, ça a été ta journée, je t'aime, t'es belle, oh, il sent bon le gel douche à la pêche, tu l'as acheté où? Et en fait, hop, on a volé un moment couple, au milieu de cette tornade de vie, cette tornade de famille, hop, un moment couple, et on se rappelle qu'on s'aime, on n'est pas que des colocs, on est un couple. Vous voyez, en fait, je vous donne juste des petites astuces. Vous allez trouver les vôtres. Vous allez trouver les vôtres. Oh oui, j'ai été à une formation à CBM Campus, il faut qu'on se douche ensemble. Non, j'ai pas dit ça et ne faites pas ça. Ah, ça rigole. Hein. Adaptez vos temps spirituels aux enfants, on en a parlé. La famille est un lieu de vie. Veillez sur vos familles, prenez soin des uns et des autres. Dieu veut se manifester au travers de votre famille. Ne limitez pas le Saint-Esprit, soyez vrais avec vos enfants, ils vous observent. Plus d'exemples, moins de discours. Ton premier ministère, c'est ta famille, moi et ma maison, Josué 24, nous servirons l'Éternel. Aie la perspective du ciel pour ta famille. Dans ta maison, il peut y avoir l'atmosphère du ciel, tous les fruits de l'Esprit. Ta famille, elle est de Dieu. Bats-toi pour ta famille. C'est un lieu d'amour, de repentance, de joie, de pardon, de multiplication, de partage. C'est magnifique. La famille, c'est de Dieu. Si tu n'as pas de famille, fais-toi adopter. Les familles, là, adoptez les personnes qui n'ont pas de famille ici. Adoptez. Accueillez chez vous. Aimez. Ce sont vos fils et vos filles, nous sommes des frères et des sœurs, d'accord? Le cœur de Dieu est très gros, très large, et nous devons le manifester en tant que famille. Amen. Voilà. J'ai terminé, c'est fini pour la famille. On va enchaîner avec le corps de la femme. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a ce passage dans la Bible qui dit aux hommes de nous honorer parce que nous sommes un vase fragile. Et c'est vraiment cette notion précieuse. On a besoin de cette protection de l'homme sur nous. Les femmes, nous sommes porteuses de vie, physiquement, et pas que. On a un truc. Vous êtes d'accord, les filles? Vous savez, on dit souvent, l'homme, il construit la maison, et la femme, elle met une âme dans la maison. Ah, mais ça, c'est trop vrai, hein? On arrive, c'est tout blanc. C'est fonctionnel, hein, les gars, hein, c'est génial. Puis nous, on arrive, on met une plante verte, des rideaux, des tableaux. Donc, on a quelque chose aussi pour libérer la vie spirituelle. Et en fait, je voulais parler avec vous des menstruations, donc du corps de la femme, parce que ça touche à peu près 50% de la population. Comme je disais tout à l'heure, forcément, ça se répercute aussi sur vous, messieurs. J'aimerais vous expliquer donc comment ça fonctionne. Peut-être que vous, ça va vous aider aussi, si vous êtes une femme, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. On en parlait tout à l'heure. Alors, il faut savoir que les hommes et les femmes, on n'a pas le même cycle. Bon, là, normalement, je vous apprends rien. Vous savez que vous êtes différents. Donc, oui, t'as pas de règles. Rassure-moi. Donc, ça... Alors, vous, les hommes, vous êtes sur un cycle de 24 heures. Vous avez un pic de testostérone le matin et tranquillement, plus d'énergie le soir. Et c'est pareil tous les jours. Voilà, un pic le matin et ça diminue en fin de journée. Et c'est la même chose tous les jours. Efficace. Nous, les femmes, on est sur un cycle mensuel. Donc vous, par exemple, c'est comme si vous étiez le soleil. Et nous, on est un peu la lune, d'accord ? C'est-à-dire que nous, nos hormones fonctionnent différemment. Et aussi, notre énergie, tout simplement, parce que c'est lié. Et donc, on a un cycle, en fait, mensuel, où, en fait, on a comme des vagues hormonales. Et en fonction de où on en est dans notre cycle, on a des jours où on se sent plus énergique, plus sociale, plus ouverte. Et on a des jours où on intériorise un peu plus. Ça pourrait ressembler à une petite déprime. Et donc, ça s'explique hormonalement. D'accord ? Donc, tu n'es pas folle. Et en fait, si on comprend comment ça fonctionne et qu'on accepte comment ça fonctionne, qu'on arrête de lutter contre, qu'on met en place des choses pratiques pour nous aider à accompagner ces périodes de journée, de vie d'une femme, ça peut se vivre bien. Ce que je veux vous dire, c'est que le cycle de la femme, c'est de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé, c'est une bonne chose, c'est un signe de santé. Les menstruations, c'est une bonne nouvelle, c'est un signe de fertilité, de bonne santé. Si tu n'as pas tes règles, c'est inquiétant, il faut consulter. Si tu n'ovules pas, ça veut dire qu'il y a un problème hormonal dans ton corps, donc c'est une bonne chose d'ovuler. Il y a quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, comme nos utérus sont des lieux de vie, des lieux sacrés, des lieux très puissants où la vie démarre, c'est très contesté par le diable. Le diable, le plus tôt possible, il va essayer d'aller attaquer cet endroit-là. Comment ? Des abus, des abus physiques, des abus sexuels, par des fausses croyances sur moi, ce que je pense de moi, de mon corps. On parlait tout à l'heure des pertes de grossesse, qu'elles soient volontaires ou non. En fait, comme il s'attaque sur ça. Vraiment, je vous le dis, Jésus, il aime l'homme, il aime la femme. Jésus aime nos utérus. Et Jésus, il veut qu'on se réconcilie avec nos utérus. Il veut qu'on se réconcilie avec cet organe qui est extraordinaire et qui est très précieux pour lui. Et vous voyez, une problématique avec un utérus, c'est pas la même problématique qu'avec l'appendice. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, si on t'enlève l'appendice, ça n'a pas le même impact que si on t'enlève un utérus. OK? Des utérus prophétiques. Alors, on y va. Les menstruations à la découverte du cycle de la femme. Tiens, tu peux passer la prochaine, s'il te plaît. Alors, vous avez peut-être déjà vu à l'école. En fait, je vais vous montrer des images que vous avez probablement vues à l'école et je vais vous expliquer un petit peu. On va parler des moyens de contraception et ensuite, je vous expliquerai mieux que l'école. Non, je plaisante. Comment ça marche? Alors, une femme, dans un cycle classique. Donc, elle a une période de règles. Donc, le début de son cycle, c'est à J1. C'est pas le premier du mois, les garçons. Ça n'a rien à voir. C'est J1, c'est le premier jour de ses saignements. Ça peut arriver le 27, ça peut arriver le 3 mars, ça peut arriver le 17 juillet. Bref, ça dure quelques jours. Ensuite, il y a une période assez calme au niveau hormonal, c'est bas. Donc nous, les hormones féminines, c'est l'œstrogène et la progestérone. Donc le niveau est bas. Et en fait, il y a l'ovulation, c'est ce que vous voyez en haut, il y a un ovaire qui libère un ovule. Et ensuite, on a la phase lutéale, c'est-à-dire c'est une phase en fait où la progestérone prend le dessus sur les œstrogènes pour que si au cas où il y a un bébé, etc., ça tienne. Et en fait, s'il n'y a pas fécondation, on a une chute hormonale, les hormones et les œstrogènes qui chutent, et nous avons des saignements. Donc, quand tu saignes, ça veut dire qu'avant, il y a eu une ovulation, que les taux hormonaux étaient bons, que tu es fertile. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Non, ce n'est pas normal de souffrir pendant ces règles. Tu ne devrais pas avoir mal pendant tes règles. Donc, tu peux consulter pour comprendre pourquoi tu as mal pendant tes règles. Tu peux adapter. Julien nous a parlé du sport. Alors, par exemple, le sport, c'est excellent pour les utérus. D'accord ? Tu peux marcher. Quand tu as tes règles, tu peux marcher. Ça t'aide à évacuer le sang. Boire de l'eau. L'utérus est un muscle. Il faut l'hydrater, donc il faut bien t'hydrater. L'alimentation. Tu peux adapter ton alimentation à ton cycle. Par exemple, les sucres rapides, ça inflamme l'inflammation. Hein, ça la voilà. Une fois que tu as ovulé, que tu es dans la phase lutéale, là en bleu, tu sais que tu vas avoir tes règles à peu près dans 15 jours. Si tu veux aider ton corps à mieux éliminer les règles, sans souffrir, etc., tu peux éliminer les sucres rapides. Alors, je vous le dis, il y en a qui vont dire « Oh non, flemme, j'ai pas envie. » Bah, fais comme tu veux. C'est juste que si tu es allongé dans ton lit, que tu as des crampes terribles et que tu peux pas sortir de ton lit pendant 3 jours, des fois, ça vaut peut-être le coup d'adapter son alimentation. Moi, je dis ça, mais fais ce que tu veux, hein, ma chérie. Donc, c'est juste en fait, bah, voilà, la boîte de Ferrero Rocher de Julien, je peux la manger, par exemple, après mes règles, mais je vais éviter de la manger avant mes règles, parce que ça peut accentuer des douleurs de règles. Il peut y avoir aussi des pathologies. Donc, si tu as une pathologie, il faut que tu saches ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ton utérus, il faut comprendre. On parle de SOPK, on parle d'endométriose, on parle de kystes. Il y a des maladies de l'utérus que des femmes apprennent trop tard, enfin très tard, et qui ont eu zéro prise en charge. Et on leur a dit, non mais c'est vos règles, c'est normal, ça fait mal. Mais non en fait, ce n'est pas normal. Les menstruations, c'est divin. Donc en fait, voyez, il y a eu des déserts médicaux par rapport à l'accompagnement de la femme avec ses menstruations. Donc voilà, si c'est ton cas, voilà, tu peux peut-être, il y a des conseils hygiéno-diététiques, ben voilà, l'alimentation, boire, le sport, se reposer aussi. Si tu as la tête dans le guidon tout le temps, tu es stressé, parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui commande ton cycle menstruel. Donc, si tu es stressé, angoissé, ça peut impacter négativement ton cycle. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses. C'est pour ça que Dieu parle du Shabbat, de la paix, de faire une pause régulièrement, etc. C'est bon aussi pour le cycle menstruel. Non, ne reste pas dans cette idée que c'est une impasse et que tu dois subir ça toute ta vie. C'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu, il veut que tu puisses le louer même pour tes règles. Vous arrivez à vous l'imaginer ? Vas-y, on y va. Seigneur Jésus, je te bénis pour mes règles. Je bénis mon utérus, Seigneur Jésus, maintenant. Tu peux poser ta main sur ton utérus. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je l'ai maudit. Je te demande pardon parce que cet utérus, en fait, il me fait souffrir et je sais que c'est pas de toi, que c'est pas ton cœur de père pour moi. Tu m'as créée parfaite, merveilleuse et je demande à toute douleur, toute endométriose, toute maladie liée à l'utérus, de partir dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu viens restaurer cet organe. Tu viens guérir ce qui doit être guéri. Seigneur Jésus, je te demande d'agir au niveau de mes règles, que ça soit normal, supportable, que je n'ai pas besoin de me mettre en arrêt. Donne-moi des stratégies aussi pour mieux vivre avec mon cycle, pour mieux prendre soin de mon corps, pour mieux me reposer. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bénissez vos utérus. Parlez positivement de vos règles. Quand elles arrivent, bénissez-les. Vous savez, c'est très grave si le sang ne s'écoule pas. Merci Seigneur Jésus parce que le sang il s'écoule, mon corps il fait un travail. C'est ton utérus qui se contracte en fait comme une éponge et le sang s'écoule, c'est une partie de l'endomètre qui s'évacue. Merci Seigneur parce que ça s'évacue. Amen Seigneur Jésus. Repose-toi peut-être un peu plus, bois plus, mange moins de sucre, fais-toi plaisir pendant cette période de menstruation. C'est une période que Dieu bénit. Et c'est pareil pour la grossesse, c'est pareil pour l'accouchement, c'est pareil pour l'allaitement. Ce sont toutes des phases où Dieu, il veut te bénir. J'ai vécu des accouchements sans souffrance. Je vous le dis, ça existe. Ça veut dire que c'est possible à vivre. Non, ce n'est pas le cœur du Père que tu sois au bord de la mort à chaque accouchement dans la souffrance. Ça m'est arrivé. Voilà. Et j'ai cheminé avec Jésus et j'ai vécu aussi deux accouchements sans souffrance et c'était vraiment de la grâce et c'était vraiment merveilleux. Et si je l'ai vécu, tout le monde, je le crois, peut le vivre. Vous entendez les amen ? C'est beaucoup les femmes qui disent amen. En fait, vous savez pourquoi les gars ? Parce que nous, on le vit dans nos corps. Et on le... Les filles, il faut qu'on explique un peu plus aux garçons ce qu'on vit dans nos corps. Vous ne pouvez pas leur demander de comprendre, de vous comprendre, si vous ne leur expliquez pas, si vous ne mettez pas des mots, les sensations que ça vous fait, comment vous vous sentez. Vous croyez qu'eux, ils vont deviner tout seuls ? Voilà. Non mais même nous, on ne comprend pas. Même nous, des fois, on est là, « Ah, je ne sais pas ce qui m'arrive !» Ouais. En fait, on est une team. Et les filles, les garçons, c'est pas des punching balls. Il faut leur expliquer aussi ce que vous vivez. Et les garçons, il faut nous écouter. Et il faut nous accompagner, en fait. C'est comme l'accouchement. Des fois, ça fait flipper les gars. Parce qu'ils peuvent rien faire. Ah, j'aimerais que t'aies plus mal, que le bébé sorte. Mais en fait, nous, on a besoin que vous soyez un roc solide à côté de nous. On est en train de vivre quelque chose. J'ai accouché debout. On est en train de vivre quelque chose qui nous saisit, qui est puissant. On donne la vie. C'est un moment incroyable. On a besoin de s'appuyer sur vous. Vous êtes des rocs, en fait, les gars. Et nous, des fois, on est vulnérables. On a besoin de sentir juste qu'on est écouté, comprise et qu'on peut s'appuyer sur vous. On ira mieux après. OK ? Alors là, vous voyez, tous les cycles ne font pas 28 jours. Voilà. L'école, elle dit 28 jours, ovulation à 14 jours. Oubliez ça. C'est faux. Je crois qu'il y a peut-être 25% des femmes à qui ça arrive. Beaucoup de femmes, c'est des cycles plus courts, plus longs. Un cycle normal, c'est entre 19 jours et 35 jours. Voilà. Si t'es là-dedans, t'es dans les clous, ma chérie. Au-dessus de 35 jours, c'est un cycle long. Voilà. Et il peut y avoir diverses explications à ça. Voilà. Donc, l'utérus, donc la cavité, l'endomètre, trompe de Fallope, ovaire, le vagin. Voilà. Donc ça, c'est l'anatomie de ce qu'une femme a dans son corps. Donc si tu n'as pas d'utérus, alors je vais préciser, si dans tes cellules, tu n'es pas XX, tu es un homme. Si tu es XX dans tes cellules, tu es une femme. Si tu es XY, tu es un homme. Ça va ? Ça, c'est de la biologie. Alors, j'aimerais parler rapidement des moyens de contraception, parce que c'est très important. Nous sommes pratiquement tous concernés. Alors, je vais vous dire ce qui se fait. Alors, je ne vais pas m'étaler, parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais je vais vous dire les grandes lignes. Vous avez les contraceptions hormonales. Donc, les pilules œstroprogestatives, micro-dosées, là, micro-progestatives, les patchs, les injections, enfin tout ce qui est hormonal. Trois actions, elles font ces moyens de contraception-là. Elles vont agir au niveau de l'ovaire pour bloquer l'ovulation. Elles vont agir au niveau du col de l'utérus, parce que le col de l'utérus, il y a un bouchon de glaire. Et le but, c'est que les spermatozoïdes ne passent pas. Donc, elle va épaissir la glaire pour que ça fasse un bouchon compact. Et empêcher l'anidation au niveau de l'endomètre, donc à l'intérieur de l'utérus. C'est pour pas que ça vienne se nicher si jamais il y a quelque chose qui, s'il y a eu un ovule qui est sorti malgré tout, qui a été fécondé malgré tout et qui essaye de se nicher malgré tout. Eh ben, le moyen de contraception hormonale agit aussi sur l'endomètre pour ne pas qu'il se niche et pour qu'il soit évacué. OK? Ensuite, il y a donc le stérilet. Alors, il y a le stérilet hormonal, mais je l'ai mis avec les moyens de contraception hormonaux. Donc, le stérilet, c'est un petit thé en plastique, en gros, qu'on insère à l'intérieur de l'utérus. Et en fait, il va irriter l'intérieur, il va irriter l'endomètre. Donc, souvent, une femme, par exemple, qui a un stérilet, elle peut avoir des douleurs dans le dos, elle peut avoir des règles hémorragiques, ce qui veut dire beaucoup de fatigue. Elle peut avoir aussi des grossesses extra-utérines. Comme l'endomètre, il est irrité. Si jamais il y a une ovulation qui est fécondée, ça ne peut pas se nicher au niveau de l'endomètre et ça se développe dans la trompe. Donc ça, c'est une urgence vitale. Il y a un début de grossesse, mais qui est coincé au niveau de la trompe. Donc, c'est pas viable. Et la trompe peut éclater, la femme peut mourir. Il y a au cuivre. Le cuivre, donc ça serait aussi toxique pour les spermatozoïdes. Le problème, c'est que c'est aussi toxique pour notre thyroïde. C'est pas génial. Voilà. Donc, ça sera. Et vous avez ce qui est extérieur au corps, tout ce qui est préservatif masculin, féminin, j'ai pas noté, mais il y a aussi des gels spermicides, etc. Voilà. Donc là, j'ai un petit résumé qui, au niveau éthique chrétienne, est importante de comprendre. Alors, je parle de contraception abortive, c'est-à-dire les moyens de contraception qui peuvent provoquer des fausses couches précoces. Ça veut dire il y a eu ovulation, il y a eu fécondation, donc ting 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 ting, ça voyage le long de la trompe, ça cherche à se nicher dans l'utérus et ça ne peut pas s'évacuer. C'est l'objectif de tous les moyens de contraception hormonaux. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est par exemple la pilule micro-progestative, micro-dosée, elle agit donc sur l'ovaire, l'endomètre, le col de l'utérus. Elle arrive à bloquer 30% des ovulations. Pas plus que ça. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 70% du temps, ça ovule. Ensuite, elle agit sur la glaire cervicale pour essayer d'avoir ce bouchon et elle agit sur l'endomètre. Statistiquement, donc ça, c'est des probabilités. Ça ne veut pas dire que ça se produit forcément. Hein. On estime à une fausse couche précoce par an une femme qui est sous ce moyen de contraception-là. Mais elle ne le sait pas. Parce que c'est évacué avec les pertes de sang, quoi. Donc en fait, là, on discute de quand démarre la vie, qu'est-ce qu'un début de grossesse. La Bible parle du début de la vie. À la conception, alors je vous montre, l'ovaire est là, donc l'ovule est libéré ici. Donc le spermatozoïde, donc ça c'est le vagin, quand le mari libère le sperme, les spermatozoïdes nagent et viennent rejoindre l'ovule ici. S'il le féconde, il y a fécondation, début de grossesse. Ensuite, l'ovule fécondé, il vient ici se déplacer le long de la trompe et il se niche dans l'endomètre. Et la grossesse se poursuit. Si ici, il n'y a pas fécondation, l'ovule est réabsorbé par la trompe. Il se désintègre en moins de 24 heures et il est réabsorbé par la trompe. Donc, le démarrage d'une grossesse, c'est ici. Le démarrage de la vie, c'est ici. Pourquoi ? Parce que le spermatozoïde du mari a de l'information génétique. L'ovule a de l'information génétique. Ensemble, ils fusionnent. À partir du moment où ils fusionnent, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui se produit. C'est l'ADN du futur bébé. Donc la carte génétique du futur enfant, elle est écrite ici. Pas ici, pas une fois que le cœur bat, pas une fois quand le cerveau est formé. C'est ici, à la fusion des deux cellules. Une carte génétique, ça veut dire quoi ? Une carte génétique, ça veut dire qu'ici, il y a écrit si c'est un garçon ou une fille. Ici, il y a écrit sa couleur de peau, la taille de ses pieds quand il ou elle sera grande. Ici, il y a écrit si elle est brune ou blonde. C'est la carte d'identité génétique de l'enfant. C'est là que ça se passe. Vous voyez ? Donc du coup... les moyens de contraception hormonaux, type pilule, patch, injection, il y a un point d'interrogation. Tu ne sais pas si tu as déjà fait une fausse couche ou pas. Ok ? Je vous le dis pour que vous sachiez. En fait, c'est pas du tout pour juger ou condamner. C'est parce que j'ai trop parlé avec des femmes qui ne savaient pas ce qu'elles prenaient et après, elles regrettaient. Tu peux savoir et décider, non, je continue. Alors ça t'appartient, d'accord ? C'est pas l'Église qui va te dire quoi faire avec ton utérus. Vous êtes responsable et vous faites vos choix. Et moi, je suis pour les choix éclairés. Donc moi, je pense que Dieu m'a demandé de parler pour que les femmes et les maris, ensemble, fassent des choix éclairés. C'est terrible quand j'entends mon gynécologue, il m'a pas dit ce que je vous dis. Moi, il y a très peu de gynécologues qui disent que ça provoque des fausses couches précoces. Moi, j'en ai rencontré deux en France qui le disent. Et ils ont raison. Et le stérilet, alors le stérilet hormonal, c'est une, pareil, c'est les mêmes statistiques, une fausse couche précoce par an. Et le stérilet en cuivre, c'est une tous les deux ans. Donc ça, c'est des statistiques, ok ? Donc on est sur des moyens de contraception qui n'empêchent pas forcément la rencontre. C'est pour ça qu'on dit que c'est potentiellement abortif ou abortif. Dans les contraceptions non abortives, on a tout ce qui est extérieur au corps, mécanique, donc les préservatifs, les spermicides, etc. Et donc j'ai mis les méthodes naturelles. Alors les méthodes naturelles, en fait... C'est pas vraiment une méthode de contraception parce que ça bloque rien du tout. Vous voyez, une méthode de contraception, c'est pour bloquer quelque chose. La méthode naturelle, je vais vous en parler tout de suite, c'est de la gestion naturelle du cycle féminin. On bloque rien et on vit en couple au rythme du cycle féminin et on adapte notre sexualité au cycle féminin. Alors, vous voyez, on peut être amené à prendre un traitement hormonal parce qu'on a une pathologie. Alors moi, je vous fais la différence. Tu as une pathologie, tu as besoin d'un traitement hormonal. Ok, pas de problème. Par contre, donner des traitements hormonaux à des corps sains qui fonctionnent bien, en parfaite santé, fertiles, avec des cycles, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les traitements, c'est quand on a un problème de santé. Tu n'as pas de problème de santé, tu es fertile, ma chérie, c'est une bonne nouvelle. Par contre, bah oui, c'est vrai qu'il faut le gérer. Vous voyez, moi, je me suis mariée à 20 ans. Vous l'avez compris, je suis très fertile. Mon mari aussi, c'est une grâce, alléluia. Du coup, moi, avec mon mari, on sait que quand on ne veut pas d'enfant, parce qu'il y a des moments où on en veut, il y a des moments où on n'en veut pas. Vous comprenez ? On n'est pas, olé, olé, oh, ben, on s'en fiche, de toute façon, on veut une famille nombreuse. Ben non, moi, je n'avais pas envie d'enchaîner tous les ans une grossesse, parce que je voulais une famille nombreuse. Donc, il faut tenir le marathon. Et on voulait espacer un petit peu les naissances, on voulait gérer, en fait. Et c'est biblique, ça. C'est biblique. Dans la Bible, il y a cette notion de assujettir. Multipliez-vous, remplissez la terre. Ok, merci. Assujettissez-la. Il y a la notion de gestion. Est-ce que c'est anti-biblique de gérer sa sexualité, de désirer la taille de sa famille ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un cadeau de Dieu. Et voyez, avec mon mari, bah, du coup, on fait les méthodes naturelles et on sait que quand on ne veut pas d'enfant, eh ben, en fait, bah, on sait comment faire. Et quand on veut un enfant, on sait comment faire. Mais c'est génial. Vous vous rendez compte là du pouvoir qu'on a et de la responsabilité qu'on a entre les mains, quoi. Est-ce que tu as des tests d'ovulation qui sont fiables ? Alors oui, le truc en fait, c'est que tu es fertile avant ton ovulation. Donc par exemple, le test peut être positif, merci de l'information. Par exemple, si tu veux pas tomber enceinte, que tu as eu une union pendant ta période fertile puis qu'elle a eu lieu 3-4 jours avant, tu peux tomber enceinte. Par contre, si tu veux tomber enceinte, oui, ça peut t'aider de acheter le test en pharmacie. L'intérêt des méthodes naturelles, c'est que tu arrives à voir quand est-ce que tu ovules et quand est-ce que tu ovules pas, avec rien du tout. C'est trop bien. Pas de thermomètre, pas de bandelette, toi, ton corps, tes symptômes, et tu discutes avec ton conjoint. Je trouve que c'est merveilleux. Donc, à la redécouverte du cycle, je vous explique rapidement le principe des méthodes naturelles. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cycle menstruel, donc comment ça se passe ? Je vous ai dit, le cerveau, il gère votre cycle menstruel, mesdames. Donc, votre cerveau, il communique en permanence, en fait, avec vos ovaires. Donc, ce qui se passe, c'est que au tout début, en fait, ce qui se passe, c'est que donc au début du cycle, vous avez l'endomètre ici, il y a une chute hormonale, il se détache, vous saignez. Une fois que cette période-là elle est terminée, le col de l'utérus ici, il se referme et il y a un bouchon. Il y a une période de quelques jours, ça dépend des femmes, assez calme où progestérone et œstrogène sont au plus bas. Le cycle féminin, c'est un peu comme les saisons. Vous pensez les quatre saisons. Il y a un automne, un hiver, printemps, été, d'accord ? Et ça, c'est révélateur un peu de comment fonctionnent nos hormones. Donc là, l'hiver est passé, d'accord ? Les règles sont terminées. Et puis là, ça va être le printemps. Donc le printemps, en fait, c'est cette période un peu calme. Et puis, les œstrogènes commencent d'augmenter dans le corps. Donc ça, c'est le cerveau, hein. C'est le cerveau qui dit, allez ! Parce que vous savez à quoi ça sert un utérus, hein ? Ça sert à faire un bébé, hein. Ça sert qu'à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire des bébés. Mais en fait, sa seule fonction, c'est ça. Donc il y a le cerveau qui dit aux ovaires, hey, on va augmenter les œstrogènes parce qu'il faut préparer la chambre pour faire un bébé. Et il fait ça tous les mois. En termes de persévérance, on tient le bon organe. Et donc, l'ovaire, il commence de sécréter de l'œstrogène. L'œstrogène, il augmente et il a un impact sur le col de l'utérus. À ce moment-là, la femme, elle ressent des pertes blanches. Mesdames, si vous avez déjà remarqué ça, il y a des pertes. Alors on dit perte blanche, le terme scientifique c'est de la glaire cervicale. En fait, le col de l'utérus qu'elle a, il réagit aux œstrogènes et il sécrète cette glaire cervicale qui s'écoule et qu'on peut observer au fond de notre culotte. Elle évolue de jour en jour au fur et à mesure que les œstrogènes ils augmentent. Parce que quand ils commencent d'augmenter les œstrogènes, voilà, ils y vont à fond. Le but c'est que l'ovule soit libéré et que tout le corps soit prêt pour accueillir un bébé s'il y a lieu. Donc ça agit sur le col de l'utérus, ça agit sur l'endomètre. L'endomètre, il commence de se gorger de sang. Voilà. Parce que si ça vient se nicher là, il faut que ça soit très irrigué en sang. C'est important pour la survie de l'embryon. Et donc, ça agit sur l'ovaire qui prépare un ovule. Ça sert à ça, les œstrogènes, d'accord ? Et en fait, toute la période où on a ces pertes blanches, c'est une période fertile. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir bientôt une ovulation et la glaire cervicale, elle est nécessaire pour la survie des spermatozoïdes. Donc, je vous explique. S'il n'y a pas de glaire cervicale, après une union, les spermatozoïdes ne peuvent pas survivre dans le vagin parce qu'il est légèrement acide. Donc la survie, c'est quelques minutes à 30 minutes, voire une heure. La femme, elle perd après du liquide séminal qui est rempli de spermatozoïdes morts. Ah, c'est trop triste. Donc voilà. Par contre, oui, bah ça dépend du coup. La pilule, elle va chercher à bloquer la glaire cervicale, vous avez compris. Donc par exemple, si vous êtes sous pilule, ça peut vous arriver que vous avez aucune sensation, que vous voyez rien du tout dans la lingerie et que vous vous sentez tout le temps sèche. Bah oui, vous êtes sous hormones pour stopper ce cycle naturel, d'accord ? Par contre, vous savez, il y a des grossesses sous pilule et en fait, eh ben, il y a des warriors. C'est-à-dire que il y a eu de la glaire cervicale et la pilule n'a pas suffi à stopper cette glaire. Oui. Donc, comme je disais, le spermatozoïde ne peut pas survivre. En revanche, à partir du moment où il y a de la glaire cervicale, c'est un élixir de vie. Elle maintient en vie les spermatozoïdes. La glaire cervicale sert à ça. C'est fantastique, hein ? Donc, vous êtes passionnés. Donc, en fait, à partir du moment où il y a de la glaire cervicale, les spermatozoïdes, ils peuvent vivre dedans 3 à 5 jours sans problème. Donc, sans glaire cervicale, niette. Glaire cervicale, 3 à 5 jours. Parce que la glaire cervicale, elle les nourrit, elle les protège, elle rend le milieu du vagin basique. Et en fait, elle permet aux spermatozoïdes de nager, de franchir le col et d'aller rejoindre un ovule qui serait libéré. Donc, en fait, ce que vous devez savoir, donc les œstrogènes augmentent. La glaire cervicale, ça devient un peu comme du blanc d'œuf cru. Vous avez peut-être déjà vu ça s'écouler. Bah, c'est tout à fait normal. En fait, ça veut dire que vous êtes fertile, que votre col de l'utérus il réagit à une montée d'œstrogènes dans votre corps. Bravo, mesdames. Voilà. Les gars, ils sont là. Je vais aller questionner ma femme en rentrant. Mais oui, faites-le, c'est génial. Non, mais c'est trop bien. Moi, j'ai eu des conversations fantastiques avec mon mari quand je lui expliquais qu'on allait se marier. Je lui disais, bah, écoute, moi, je connais une méthode naturelle. Je veux pas prendre de moyens de contraception. Bah, lui disait, ok, je te fais confiance. Je lui expliquais, on n'impose jamais un moyen de contraception. C'est en accord avec le conjoint, d'accord ? Ça, c'est hyper important. Si votre conjoint n'est pas d'accord, vous ne l'imposez pas. Hein, hein, ok ? Abstinence, hein, du coup. Non, je sais pas. Donc. Alors, voilà, là, je vous ai parlé des œstrogènes et de ce qu'ils ont fait, là. La femme n'a toujours pas ovulé. Ce qui se passe, c'est quand les œstrogènes sont très hauts, que la glaire cervicale, là, on se sent, vous le sentez normalement, les filles, vous vous sentez un peu mouillée, vous sentez que ça, même que ça glisse, il y a une sensation glissante. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, la progestérone, elle commence d'augmenter, elle active les poches de chaud. C'est des petites poches à la base du vagin qui vont réabsorber l'humidité que vous sentiez. Cette sensation humide, cette sensation glissante. En fait, il y a un changement net le lendemain. Vous ne vous sentez plus mouillée, plus glissante. Et ça, c'est une réaction de votre col de l'utérus à la libération de la progestérone dans votre corps. Libération de progestérone égale ovulation. Enfin, ovulation. Égale moment le plus fertile de ton cycle. L'ovulation, elle peut arriver ce jour-là ou 1 à 2 jours après. Voilà, ce changement de sensation net. Donc, une fois que vous savez ça et que vous apprenez un peu à vous écouter, à vous observer, mesdames, vous êtes en capacité de sentir. Là, je rentre en période fertile. Ouais. Là, je me sens très glissante, donc je sais que ça veut dire que je suis au taquet au niveau œstrogène. Le lendemain, là, j'ai eu un changement net, ça veut dire que j'ai commencé de libérer de la progestérone. Je vais ovuler, soit aujourd'hui, soit demain, soit après-demain. Ça, c'est de la science, hein, c'est des... voilà. Et une fois que vous avez passé ce temps-là, l'ovule vit 24 heures. Il a été libéré, il vit 24 heures. Une fois qu'il a été maximum, hein, en moyenne c'est plutôt 18 heures, une fois qu'il a été libéré et qu'il a été réabsorbé par les trompes, votre cycle fertile est terminé, vous ne pouvez plus tomber enceinte, vous êtes dans votre phase lutéale et vous allez avoir vos règles dans une quinzaine de jours. Voilà, ça c'est un cycle normal, fertile de la femme. Que ton cycle il fasse 19 jours, 24 jours ou 30 jours, ça ne change rien. Voilà, c'est ton cycle et c'est de l'observation chaque jour. Vous comprenez ? Donc évidemment que moi, au niveau de mon couple, ça a beaucoup impacté mon couple de faire les méthodes naturelles parce que du coup, on était obligés de communiquer sur mon cycle, sur mes sensations, sur la maîtrise de soi. Là, si on fait quelque chose, ça peut faire un bébé. On veut un bébé ou on veut pas un bébé ? Vous voyez, c'est ces conversations-là qu'on a eues avec mon mari. Si on veut pas de bébé, abstinence. Je ne connais pas de méthode à 100%. La méthode de l'ovulation Billings, qui est une méthode naturelle, donc c'est 99%, donc on est sur des taux équivalents à la pilule si la méthode est bien apprise et respectée. 100%, c'est l'abstinence. Donc en fait, avec mon mari, quand on ne veut pas d'enfant, nous n'avons pas d'union pendant mes périodes fertiles. Nous avons des unions hors de mes périodes fertiles. Voyez là, il y a 4 couleurs, ça correspond aux 4 phases de ton cycle, on pourrait dire aux 4 saisons. Donc rouge, vous l'avez deviné, ça sent les menstruations. Ensuite, cette période un peu calme, où le taux hormone est bas. Blanc, c'est quand tu commences de perdre de la glaire cervicale. Ici, c'est le début de la fertilité de la femme. À partir de là, la femme, si elle a une union, eh ben, elle pourrait tomber enceinte. Okay ? Donc, quand les œstrogènes augmentent, la glaire cervicale, elle évolue de jour en jour. Elle change d'aspect, de sensation. Vous voyez le moment de la croix, là ? Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, là, la femme qui s'observe tous les jours... Elle s'observe. La glaire, elle évolue jusqu'à cette sensation, comme je vous disais, très mouillée, glissante, qu'elle n'a plus le lendemain. Donc, si elle a senti un changement net le lendemain, ça veut dire que le jour le plus fertile de son cycle, c'était la veille. Donc, elle met une petite croix la veille. Et elle sait que, ça c'est des études scientifiques, hein, parce que c'est reconnu par l'OMS, hein, tout ce que je vous raconte, 80% des femmes ovulent à la croix, c'est-à-dire là où la progestérone a commencé d'augmenter. 19% ovulent le lendemain et 1% ovulent le surlendemain. Donc, en fait, la méthode de l'ovulation Billings, elle prévoit, si vraiment vous voulez écarter toute grossesse, elle prévoit en fait de quand la femme elle a repéré ce qu'elle appelle son sommet, c'est-à-dire le moment où elle est le plus fertile, elle met la croix et elle compte 1, 2, 3, 2 jours d'abstinence pour en fait éviter, s'il y a une ovulation à J1, J2, comme l'ovule vit maximum 24 heures, on attend J3, les unions, elles sont à nouveau possibles à partir de J4. Et là, les unions sont possibles quand on veut. Le cycle fertile de la femme, il est terminé, matin, midi, soir, si tu as envie. En fait, il y a le cycle fertile est terminé. Donc, on ne se pose plus la question de quand est-ce que je rentre en période fertile, parce que ça, tu comprends, ça dépend des femmes. Suivant ton cycle, c'est plus ou moins long, cette période-là. Alors, la méthode de l'ovulation Billings, elle a 4 règles pour les 4 phases du cycle. La première règle, par exemple, c'est pas d'union pendant les menstruations. Ah, c'est marrant, c'est biblique en plus, cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voyez, la période fertile, elle peut démarrer pendant les règles. Donc ne pensez pas qu'on a une union pendant les règles, on est tranquille. Ben, pas forcément. Tu peux avoir de la glaire cervicale pendant tes règles et tu le vois pas parce qu'il y a du sang. Et t'ovules juste derrière. Donc si tu avais une union pendant tes règles alors que tu étais en période fertile, tu peux tomber enceinte juste derrière. Donc en fait, la règle, une, parce qu'il y en a 4, c'est pas d'union pendant les menstruations. Ensuite, pendant cette période-là, où on ne sait pas combien de temps ça va durer, vous êtes peut-être très réglé. Pendant moi, j'ai des cycles irréguliers. Moi, je ne sais jamais quand ma période fertile elle va arriver. Donc tous les soirs, je note dans une application mes symptômes, tous les soirs au coucher. Mes sensations, est-ce que j'ai perdu quelque chose ou pas, je le note et j'applique la règle qui va avec. Donc cette période-là, la règle, c'est les unions, elles sont possibles en fait, mais un soir sur deux au coucher. C'est-à-dire cette période-là, je dis à mon mari, aujourd'hui j'ai rien senti, rien observé de particulier, donc oui on peut et on fait, on est très content. Et en fait, faut préciser, c'est consentant. Et en fait, le lendemain, on ne fait pas. Pourquoi ? Parce que la femme, elle élimine du liquide séminal et donc elle ne peut pas voir si elle rentre en période fertile ou pas, si elle perd de la glaire cervicale ou pas. Ensuite, le surlendemain, si j'observe à nouveau que je suis sèche, etc., ça veut dire que je ne suis toujours pas rentrée en période fertile. Donc, je le dis à mon mari. Ah, aujourd'hui, on peut. Vous voyez ? Un jour sur deux, le soir au coucher. À partir du moment où j'observe que je perds de la glaire cervicale, je le dis à mon mari. Je rentre en période fertile. Adieu. Et en fait, on sait que du coup, on s'attend. Est-ce que c'est mal de s'attendre ? Moi, je pense que les fruits de l'esprit, dans Galates 5, tous peuvent se vivre dans la sexualité. Tous doivent se vivre dans la sexualité, c'est-à-dire de la maîtrise de soi. Mais évidemment, sans maîtrise de soi, ça me paraît... J'arrive même pas à le concevoir. De la joie. Je crois que dans la sexualité, il y a beaucoup de joie. Alors, on peut réfléchir en couple. Peut-être que j'ai eu une sexualité sans joie. Peut-être que je peux en parler avec mon mari aussi. Oui, très bonne question. Ouais. Super, merci de l'avoir posé. Donc je vais répondre. Juste, je termine avec mes deux règles, parce que du coup, l'histoire du préservatif, on va en parler. Donc, les unions possibles ici, un soir sur deux au coucher. Si je veux pas d'enfant, abstinence pendant la période blanche, plus les 3 jours après, vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a l'ovule qui sort, qui se désintègre, etc. Si je veux un enfant, ça aussi c'est important, on conseille en fait au couple d'attendre le moment le plus fertile. Donc quand la femme elle se sent glissante, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des unions. C'est complètement inutile de faire des unions tous les jours du cycle. Ça va pas augmenter vos chances. Oh non, c'est pas inutile. Pardon. Non mais je voulais dire pour faire un bébé. Objection votre honneur. Pour faire un bébé. En fait, vous n'allez pas augmenter vos chances de faire un bébé si vous faites l'amour tous les jours du cycle. C'est faux. D'ailleurs, c'est très bon d'avoir quelques jours d'abstinence parce que la qualité du sperme est meilleure. Donc en fait, par exemple, vous rentrez en période fertile, votre but c'est de repérer le moment le plus fertile de votre couple, de votre cycle. Abstinence, et puis quand vous vous sentez glissante, là vous dites « come on baby ». C'est le moment. Et vous savez que ça peut faire un bébé. Et vous faites les unions jusqu'à ce que cette sensation glissante, elle disparaisse. C'est-à-dire, ça peut être à J1 et J2. Vous englobez l'ovulation comme ça. Donc, en appliquant ça, cette méthode-là, ils ont des super taux de réussite aussi pour tomber enceinte. Parce qu'aujourd'hui, l'infertilité, c'est un vrai problème. Et la méthode de l'ovulation Billings, ils ont des suivis de couples, c'est 50-50 maintenant. Ils ont 50% de couples qui demandent des suivis parce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Et ils ont 50% de suivis parce qu'ils veulent en avoir et ils n'y arrivent pas. Donc la méthode, elle permet les deux. Et du coup, la quatrième règle, eh ben, c'est à partir du quatrième jour, une fois que tu as repéré ton sommet, les unions, elles sont possibles. Quand tu veux, autant que tu veux, ce n'est plus possible de tomber enceinte. Donc par rapport au préservatif, alors non, ce n'est pas possible de combiner cette méthode avec un préservatif. Je vous le dis. Maintenant, si vous voulez le faire, bah faites-le en fait. Moi, je vous dis pourquoi là, c'est 99% de réussite. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun moyen de contraception à 100%. Si tu sais que tu es fertile et que vraiment tu veux pas d'enfant, moi je trouve, c'est personnel, je trouve pas ça très raisonnable d'avoir une union à ce moment-là. Après, on est entre adultes consentants normalement. Hein. C'est avec mon mari, c'est moi. Bon, on veut pas, mais s'il y en a un, c'est pas grave. Donc on va prendre un préservatif au cas où. Bah, faites votre popote, mais c'est pas la méthode, c'est tout. Moi, en fait, je vais être formatrice bientôt. Je vais enseigner la méthode et je l'enseigne pour qu'elle soit respectée. C'est-à-dire que s'il y a un préservatif qui est utilisé et qui va fausser, en effet, les observations, parce que ça modifie la sensation à la vulve, ça modifie les sensations au niveau des pertes, moi, je ne vais pas enseigner l'utilisation du préservatif. Voilà. Moi, je vous explique une méthode qui est reconnue par l'OMS, qui a été créée par des médecins, gynécologues, endocrinologues. Et les taux sont excellents parce que c'est combiné avec zéro autre moyen de contraception. Si vous allez rajouter la pilule, un préservatif, un implant, le retrait, vous êtes hors méthode. Et j'ai aucune étude sur ça. C'est pas reconnu par l'OMS. Mais vous êtes responsable si vous voulez le faire. Faites-le, mais moi je vous aurais déconseillé de le faire. Oui ? Pardon ? Ouais, très bonne question. En fait, c'est une méthode qui fonctionne peu importe les phases du cycle dans lequel tu es. Si tu es en postpartum, en préménopause, si tu es en cycle régulier ou irrégulier, il y a quatre règles et les quatre règles, elles s'appliquent quelle que soit la phase de ton cycle. Voilà. Donc moi, par exemple, là, tu vois, on pourrait dire que je suis en postpartum et je fais cette méthode. Voilà. Surtout avant ton retour de couche. Alors, ouais, si. En fait, le retour de couche, c'est tout saignement horlochie. Hein. C'est tout premier saignement. C'est pas parce que tu saignes que tu as forcément ovulé. C'est un signe que tu as un retour à la fertilité, que tu as une mise en route des hormones qui se fait et ton endomètre réagit et parfois il saigne. C'est des saignements de privation. C'est pas forcément les règles. En fait, une fois que tes lochies sont terminées, tu reprends ton tableau et tu t'observes tous les jours. Et à partir du moment où tu as des pertes de sang, autres que les lochies hein, du coup, hein, ou des pertes de claire cervicale, ça veut dire que ton corps il est en train d'essayer de retrouver sa fertilité. Et en fait, tu appliques les règles. Par exemple, abstinence, dès que j'observe de la claire cervicale. Comment ? eh ben, les règles, soit elles arriveront après, parce qu'en fait, quand tu as de la glaire cervicale, ça veut dire qu'il y a une activité hormonale. Tes œstrogènes, ils ont augmenté. Ton col de l'utérus, il réagit directement à l'augmentation des hormones dans ton corps. Donc, ça peut monter, mais pas assez haut pour faire ovuler. Ça peut rechuter. Ça dépend des femmes. Tu peux pas te fier sur ça. Il faut t'observer chaque jour. Il y a des femmes qui tombent enceintes tout de suite derrière. Mais il y a des signes annonciateurs. Ce sont des femmes qui ont eu des pertes blanches. À un moment donné, c'est obligé. Sinon, tu tombes pas enceinte. Si t'as pas de glaire cervicale, tu peux pas tomber enceinte. En fait, c'est pas parce que t'as de la glaire cervicale que t'ovules forcément. Des fois, le corps, en fait, quand, après un accouchement, ton corps, il va retrouver sa fertilité progressivement. Et tu peux avoir des montées d'œstrogènes et tu perds de la glaire cervicale, mais ça va pas jusqu'à l'ovulation. Mais c'est suffisant pour faire réagir ton endomètre. Il y a une redescente hormonale et t'as des saignements. Et t'as pas forcément ovulé. Mais ça, t'apprends à l'observer. Moi, par exemple, pendant des mois, j'ai vu mon corps essayer d'ovuler. Mais parce que j'allaitais, donc j'avais des signes de fertilité. Donc je faisais l'abstinence avec mon mari. Et j'attendais que ça passe. Et en fait, l'allaitement a retardé mon ovulation. Et pour tout vous dire, j'ai ovulé dernièrement. Enfin bref, peu importe. Mais je recommence seulement d'ovuler depuis quelques mois. Mais j'avais déjà saigné bien avant. Mais en fait, les hormones augmentent, mais pas assez pour pousser jusqu'à l'ovulation. Donc c'est tes œstrogènes qui font comme ça, mais la progestérone, elle n'est pas encore entrée en action. Tu vois. Mais il y a un moment donné, elle rentre en action et il y a ovulation. Mais tu ne sais pas quand ça va arriver. C'est pour ça qu'il faut s'observer tous les jours. Voilà. Mais quand je vous dis s'observer tous les jours, c'est assez facile en fait. Hein. J'ai une application et tous les soirs, je me pose la question, est-ce que j'ai vu quelque chose, comment je me suis sentie. Je note dans mon tableau et je sais comment l'interpréter et voilà. Ok, donc là, on a parlé des quatre phases du cycle. Donc, j'observe ma marguerite. Ça, c'est à la portée de n'importe quelle adolescente. Ok, comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu des pertes? Qu'est-ce que ça veut dire? Votre première motivation, les filles, c'est votre santé gynécologique, hein. Ça, en fait, on devrait tout le faire et on devrait l'apprendre à tout le monde dans les écoles. C'est ma santé gynécologique. Alors, la suivante. Voilà un tableau type. Donc, en fait, dans mon application, c'est ça que je note. J'ai des gommettes et je note mes sensations. Je suis mouillée, j'ai mes règles, je suis sèche, j'ai rien. Je me sens mouillée, glissante, j'ai des pertes blanches. On n'a pas toutes les mêmes. D'accord. Vous notez avec vos mots, vous écrivez ce que vous voyez. Et puis j'applique quand je repère le sommet, 1, 2, 3. Et ensuite, je sais que le reste de mon cycle, la fertilité est terminée pour ce cycle. Donc voyez, vous ne pouvez pas tomber enceinte n'importe quand. Retenez ça, parce que les moyens de contraception, c'est le petit mensonge qu'ils nous ont mis dans la tête. Attention, danger, tu peux tomber enceinte n'importe quand. Ben non. Il y a des phases, tu peux, et il y a des phases, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu peux pas. Oui? Ah oui. Alors la méthode du retrait, donc qui sait pas ce que c'est? Lui? Alors, du coup, c'est quand en fait vous avez une union avec votre conjoint, conjointe, et en fait avant l'éjaculation, monsieur se retire et éjacule à l'extérieur. Alors, ce n'est pas une méthode scientifique. Il n'y a pas de stats. Moi, si vraiment vous ne voulez pas d'enfants, je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que déjà, il peut y avoir des petites fuites de sperme avant l'éjaculation. Une graine suffit. Hein. Ok? Une graine suffit. Donc en fait, même si vous éjaculez en dehors, autour de la zone, s'il y a de la glaire cervicale, hein, s'il y a de la glaire cervicale, alors s'il n'y a pas de glaire cervicale, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que vous vous embêtez, profitez, allez jusqu'au bout. S'il y a de la glaire cervicale, que tu fais la méthode du retrait et que tu éjacules autour des zones génitales, les spermatozoïdes, ils peuvent remonter. tu peux tomber enceinte comme ça aussi, hein. Voilà, parce que du coup, il y a les fluides qui se mélangent et puis ça remonte en fait. Si, ce sont des bons nageurs. Ok, donc là, on déborde sur la sexualité. Que dit la Bible ? Ah, qu'est-ce que j'aime la Bible, c'est très important. Tout à l'heure, Julien nous parlait de l'alimentation, du sport, prendre soin de votre corps, etc. C'est hyper bon. Dieu nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Il prend plaisir à ce qu'on prenne soin de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, des fois, moi, je me dis, mais pourquoi il y a autant de complexes en nous ? Pourquoi on est autant complexés, nous, les filles ? Peut-être les garçons, peut-être aussi. Moi, je parle au nom des femmes. Il y a quelque chose avec notre corps, quand même. On parle pas toujours, on n'est pas toujours très tendre avec nous, en ce qui concerne notre corps. Et il faut reconnaître que si on n'a pas été respecté dans notre corps, si même voire on a été abusé dans notre corps, c'est très compliqué de comprendre qu'on est une créature merveilleuse. Vous voyez ? Et en fait, la parole de Dieu, Jésus, vous voyez, c'est pour ça qu'il veut venir guérir nos cœurs, guérir nos corps, parce qu'il veut qu'on le croie et qu'on ait la révélation de qui on est vraiment, même si nous avons subi des choses dans nos corps qui sont venues attaquer en fait notre personne et notre identité. Et c'est pour ça que la sexualité, c'est quelque chose de si précieux, de sacré, de beau, qu'il faut garder, qu'il faut protéger, que la Bible veut garder dans le cadre du mariage, parce que c'est un cadre magnifique, c'est un cadre merveilleux. Je vais juste vous partager quelques versets. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Moi, je vous encourage régulièrement, demandez à Jésus, mais questionnez Jésus. Je ne sais pas si vous êtes habitué à faire ça, mais en termes de méditation, c'est excellent. C'est Jésus, ben, voilà. Alors, si tu as du mal avec ton corps, par exemple, t'as fait des régimes, t'appliques les méthodes A, B, C, D, Z, s'il y a toujours une lutte en toi, quelque chose qui résiste, un dégoût même peut-être de ton corps, tu peux te poser la question, qu'est-ce qu'on a dit de mon corps dans l'enfance ? Alors, oui, évidemment, si tu as subi des abus, si tu as subi des attouchements, des abus sexuels, si on ne t'a pas respecté dans ton corps, ça impacte ta perception de ton corps. Et il y a aussi ce qu'on a dit de toi. T'étais trop ceci, t'étais pas assez cela. Et ça nous impacte, hein. On te l'a peut-être dit dans l'enfance, dans l'adolescence, puis c'est resté comme une blessure. Et tu peux questionner Jésus, tu peux dire Jésus, mais dis-moi quels sont les mensonges auxquels j'ai cru. Bah, par exemple, moi, ma maman, elle me disait de faire attention à mon poids. Elle me disait de moins manger alors que j'avais 8 ans. Mais attendez, oh, un enfant de 8 ans, on le laisse se développer, hein. Laissez-les manger. Mettez-les au sport, à la piscine, laissez-les manger. Il y a une obsession à la finesse, voyez ? Non. Laissez les enfants être les enfants et valorisez les corps. T'es belle. Vous voyez, moi, j'ai eu une enfant à la maison. On joue à la maison, on a récupéré un pèse-personne, j'en avais pas jusqu'à maintenant. Et tous les gosses s'amusent à monter sur le pèse-personne. Ah ah ah, tu fais 36 kilos. Ah ah ah, tu fais 60. Et là, c'était au tour de la copine à ma fille. Et je vois qu'elle veut pas jouer à ça. Ah, j'ai tout de suite capté. Hein. J'ai tout de suite capté. Elle a 8 ans. Et je dis, mais pourquoi tu veux pas monter sur la balance ? Non, j'ai pas envie. Mais c'est bizarre, on fait un jeu, tout le monde joue, où est le problème ? Moi, j'avais la bonne attitude, je pense. Et j'ai dit, écoute, Cici, viens voir, tu vas voir, c'est rigolo. Regarde, monte avec moi, je monte, je fais 64 kilos, vas-y, tu montes. Elle faisait 34 ou 32, je sais plus, bref. Et j'ai fait exprès, j'ai dit, ah, oh, waouh, génial, tu fais 32 kilos. L'obsession du poids sur la balance, ne mettez pas ça dans vos enfants. Et j'en ai parlé à la maman, j'ai dit, écoute, juste je te le partage, est-ce que ta petite fille, elle est complexée ? Puis tu vois, Elle me dit, bah, pourquoi tu me poses la question? Et je dis, bah, je lui explique l'histoire de la balance. Elle me dit, bah, en fait, dernièrement, on a eu une conversation. Elle grandit, elle a dû changer de taille, de pantalon. Et en fait, sa maman lui a dit, c'est sorti comme ça, c'est, oulala, il va falloir faire attention comment tu manges. Pour moi, l'enfant, il va très bien. Il grandit et t'augmente les tailles. C'est pas un problème. Ton enfant, s'il a 10 ans et qu'il met du 14 ans, sauf s'il est obèse, vous avez compris ce que j'ai dit. En fait, tu lui achèteras du 14 ans. Peut-être qu'il est très grand, peut-être que c'est son morphotype. Et en fait, sans vraiment le vouloir, elle a mis une pensée de complexe à 8 ans. Et du coup, je lui ai dit, écoute, rediscute-en avec ta fille, parce que je pense que c'est resté dans son cœur. Il faut que tu lui en reparles. Et il faut que tu lui dises combien elle est belle, combien elle est merveilleuse, qu'on changera tous ses pantalons, que c'est pas un problème. Le postpartum, mesdames, on est dur avec nous. Hein. Et je vais rentrer dans le pantalon. Mais vous savez, alors ça se voit pas. Vous allez dire, celle-là, elle est mal placée pour parler. Mais en fait, j'ai pris un peu de poids. J'en suis contente. Je te promets, parce qu'en fait, moi, je mettais du 34 avant. Parce que je suis très fine. C'est mon morphotype, c'est comme ça. Je suis très fine. Et en fait, c'est pour ça que j'ai énormément aimé être enceinte. C'est le seul moment de ma vie où j'avais des formes. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça, je suis filiforme. J'ai pas de seins, j'ai pas de fesses. Mais je m'aime, hein, y a pas de problème. Hein. Et mon mari, il croit que j'en ai, parce qu'il connaît que moi. Donc il est heureux. Mais vous voyez, il n'y a pas de complexe, on s'honore, on honore nos corps, alléluia, alléluia. Mais je mets du 38, puis je pense que je suis même plus à l'aise dans un 40, voyez. Donc c'est juste que mes hanches, elles se sont quand même, au bout de 5 gosses, un peu élargies. Mais je connais des femmes magnifiques qui sont complexées. Je connais des femmes magnifiques qui sont complexées. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire de taille, de poids, de balance. Vous comprenez que c'est une histoire d'identité, de la valeur que tu as aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux dans le secret. Je fus façonnée, tu m'as tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe. Et tu me voyais dans ton registre, se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. C'est incroyable ce passage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mon corps, mon choix. Non. Mon corps, son choix. Ton corps appartient à Dieu. Et si tu es mariée, ton corps appartient à ton mari. Et le corps de mon mari m'appartient. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans vos corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, tu peux glorifier Dieu avec ton corps. D'accord ? Tu peux attrister Dieu avec ton corps. Et tu peux le glorifier. Tu peux demander à Jésus, « Jésus, révèle-moi qui je suis pour toi. Comment tu vois mon corps ?» Tu peux demander pardon à Jésus, il est ton créateur. Tu peux lui dire, mais en fait, tu as critiqué l'artiste, en fait. Tu as critiqué l'artiste. Ouais, ça va jamais, quoi. Les seins, le menton, les cheveux, les yeux, le ventre. Mais on va tous trouver un truc, hein. Je fais du 42. Mais moi, je galère à me chausser. Dans les petites boutiques mignonnes, ça s'arrête à 41. Mais alléluia! Merci Jésus pour mon pied, je suis sûre qu'il y a une raison. Voyez ce que je veux dire. Donc ça, j'en ai parlé. Tous les fruits de l'esprit se manifestent dans la sexualité, je le crois. Et par exemple, les méthodes naturelles, moi, m'ont appris beaucoup de maîtrise de soi au niveau de la sexualité, beaucoup de communication, beaucoup de joie, beaucoup de fun, beaucoup de bonté, beaucoup de patience. Parce que quand on est en période fertile et qu'on veut pas d'enfant, on s'attend plusieurs jours. Donc je peux vous dire que quand on se retrouve, c'est génial, c'est vraiment fun. Et on n'est pas, vous voyez, dans ce truc, on fait tous les jours un truc mécanique. On est vraiment dans un truc où Il y a de l'échange, il y a de l'amour, il y a de la passion. Et ça, c'est très bon. Je réponds à la question de la sexualité. Tiens, si tu veux, tu peux mettre le prochain diapo. Ah, bah oui. En fait, en gros, c'était juste pour vous dire vous, là où on en est. Vous avez des choix de vie, des choix de mort. C'est ce que dit la Bible. Choisissez la vie afin que vous viviez en abondance. Parce que Dieu ne veut pas que tu survives et il ne veut pas que tu subisses ta vie. Il veut que tu vives et que tu vives en abondance. Et ça, c'est le programme de notre papa d'amour. Il veut que tu sois restauré, réconcilié. Et vous voyez, oui, les menstruations, c'est divin. Oui, la grossesse, c'est divin. Oui, l'accouchement, c'est divin. Oui, l'allaitement, c'est divin. El Shaddai, c'est le Dieu des mamelles. Tu vois, dans les psaumes, David, il parle de ça. Je suis en paix comme un enfant sevré au sein de ma mère. Donc oui, nous devons encourager nos sœurs à allaiter nos bébés. Je ne sais pas si tu le sais, dans le lait, il y a de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Donc, tu nourris ton enfant avec des lipides, des anticorps, alléluia. Et il y a l'hormone de l'attachement dans le lait. Tu fais boire de l'amour à ton bébé. Non, mais vous vous rendez compte de la dinguerie de la création de Dieu. C'est beau et c'est divin. Et la ménopause, la préménopause aussi, Jésus désire nous accompagner dans ces étapes de la vie. Tu peux être béni, Dieu peut te parler pendant cette période de préménopause, qui est aussi un défi, qui n'est pas évident. Vous savez, les garçons, vous êtes des fois à l'ouest. Bon, ce n'est pas forcément de votre faute. Moi, j'ai une responsabilité auprès de mes fils. Je dois leur expliquer 2-3 trucs avant le mariage. Ce n'est pas facile pour les femmes. La préménopause, ça peut ne pas être simple. Et on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être soutenu dans toutes les phases de nos cycles et de nos vies. OK ?